France Inter. La Terre au carré.
Pour le moment, c'est votre chronique détox, Caroline Tourbe, avec une question. L'invasion du moustique tigre est-elle le fruit du changement climatique?
Oui, Mathieu, il est petit, il est tigré, il pique le jour, il gagne chaque année de nouveaux territoires. En France, ce moustique, que les scientifiques appellent Aedes albopictus, est désormais implanté dans plus de 50 départements sur 96. Et cela fait tout juste 15 ans, cette année, qu'il a débarqué en métropole.
Voilà le moustique qui fait peur à tout le monde sur la Côte d'Azur depuis que sa présence a été détectée dans quelques villes des Alpes-Maritimes. Mais apparemment, c'est une peur sans fondement, du moins si l'on en croit les spécialistes de la santé à Nice qui aujourd'hui sont catégoriques. Pour l'instant, le nombre de larves est vraiment très faible, le climat, même cet été, ne sera pas du tout tropical, comme celui de la Réunion. Bref, il ne faut vraiment pas céder à la psychose.
Bon, alors à l'époque, on ne s'inquiète pas, ça c'est un son de 2006 de France 3 Côte d'Azur. Le moustique est déjà là depuis 2 ans, en fait on va s'apercevoir très rapidement qu'on aurait bien fait de s'inquiéter. Pourquoi ? Parce que même si notre climat n'est pas devenu tropical, ce petit insecte a bien le dangereux privilège de pouvoir transmettre à lui tout seul au moins 3 maladies à l'homme, le chikungunya, la dengue et le zika. Et que contrairement à ce que le journal expliquait, eh bien ces noms, ils sont devenus familiers sous nos latitudes. Et ces infections ne sont plus considérées comme de lointaines menaces exotiques. La semaine dernière, l'Agence régionale de santé a annoncé le premier cas de Zika transmis en France pour l'année 2019. Fin septembre, c'était un cas de dengue pour la première fois détecté en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, ces histoires de piqûres qui arrivent tardivement dans l'année, conjuguées à une sensation de température anormalement chaude en ce début d'automne, évidemment, ça pourrait nous faire croire que le seul responsable de tous ces maux, c'est le réchauffement climatique.
Or, ce n'est pas vrai.
Et non. Comme l'explique très clairement Didier Fontenay, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et l'un des meilleurs spécialistes du moustique tigre, si la bête est devenue une menace, c'est parce qu'elle est douée d'une grande plasticité génétique.
Donc lorsque son milieu se modifie, le moustique tigre a la capacité d'évoluer rapidement.
C'est exactement ça. Oui. Son adaptation à notre espèce est emblématique. Alors qu'il vivait depuis toujours dans des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, où il s'attaquait aux animaux, il lui aura fallu seulement quelques centaines d'années pour se faire une place aux côtés de l'homme, ce qui est très rapide à l'échelle de l'évolution. Au milieu des habitations humaines, le moustique tigre s'est parfaitement adapté. Il est devenu gourmand de sang humain. Il a troqué ses cachettes humides dans les arbres pour des tas de petites coupelles et autres bidons d'eau. Il s'est tellement bien habitué à pondre ses œufs autour de nos maisons que certains entomologistes s'amusent parfois à le comparer à une poule de basse-cour.
Bon, alors le moustique tigre, Caroline, a non seulement su s'adapter à l'homme, mais aussi donc à des climats différents. Hein.
Oui, et c'est encore un coup de sa super plasticité génétique. Grâce à elle, Aedes albopictus a trouvé les outils génétiques pour s'adapter à nos régions tempérées, sans même avoir eu besoin que le climat se réchauffe. Lorsqu'il est sorti de sa zone de vie tropicale, ses œufs sont rapidement devenus capables de résister à des hivers plus froids. Ils attendent tout simplement le printemps pour éclore. Aedes albopictus, le moustique tigre, a même la possibilité de mettre ses œufs en dormance lorsqu'il effectue un long voyage. Et les longs voyages, il adore, surtout en cargo.
Ah, ben voilà. Alors quand on sait maintenant que le moustique tigre a profité de l'expansion du commerce international pour allier donc les 5 continents.
Hein. Exactement. C'est notre mode de vie moderne qui lui a fourni les moyens nécessaires à l'expansion sur tous les continents. On pourrait même dire que nous lui avons fourni les armes pour se faire battre. Une étude restée fameuse a parfaitement démontré que le moustique tigre est arrivé au Texas dans les années 80 à la faveur du commerce de pneus usagés venus d'Asie. Au cours des dernières décennies, cette activité a généré des flux transcontinentaux de plusieurs millions de tonnes de marchandises entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique, les Amériques et l'Océanie. Rien à voir avec le réchauffement climatique. Tout simplement, dans les pneus usagés, il y a des petites réserves d'eau stagnante, autant de cabines première classe pour le moustique et ses œufs.
Mais le réchauffement climatique n'a aucune influence ?
Non. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, sur la colonisation actuelle, c'est certain, son rôle n'est vraiment pas central et toute la question, c'est de savoir ce qui va se passer dans les années à venir. Est-ce que les changements climatiques vont jouer un rôle d'accélérateur de la colonisation ? C'est probable. Mais ce qui inquiète aussi les scientifiques, c'est que ce moustique particulièrement agile génétiquement côtoie des virus, celui de la dengue, du zika, du chikungunya, qui le sont tout autant. Et les virus pourraient aussi s'adapter à de nouvelles conditions plus tempérées. Jusqu'à présent, la transmission n'est pas optimale lorsque la température passe sous les 26 degrés, mais ça pourrait changer s'il y a une sélection de souches virales. Et donc ces maladies, elles seraient alors taillées pour faire des ravages dans nos pays tempérés. Et cette petite ritournelle polynésienne pourrait alors devenir la nôtre en métropole.
Je vais voir le docteur et il me dit tu as le zika.
Ah ben super.
C'est le groupe Berroca, qui est un groupe polynésien qui avait fait cette petite ritournelle, cette petite chanson lors de la première épidémie.
Donc on peut faire un tube avec le moustique tigre et tu as le Zika. Merci Caroline Tourbe, à la semaine prochaine pour une autre détox.
France Inter, la Terre au carré, vos solutions pour la planète.
Et nous sommes en ligne avec Agnès. Bonjour.
Bonjour France Inter, bonjour à tous.
Bonjour Agnès. Bonjour. Est-ce que tout va bien dans ma chère et tendre ville de Nantes ?
Ah, merveilleusement bien à Nantes.
Bon, vous êtes directrice de l'association BIS. Ça veut dire quoi exactement ?
Alors, BIS, c'est Bolivia Inti Sud Soleil. Donc, on est une ONG qui travaille sur la cuisson écologique.
Et alors, comment vous avez eu cette idée assez géniale ? On va le voir d'ailleurs dans un instant avec vous.
Alors, l'idée est née en Bolivie. C'est Robert Chiron, en fait, le fondateur de l'ONG, qui, au détour d'un de ses voyages en Bolivie, s'est retrouvé en panne de combustible et a aussi constaté, en fait, la pénibilité de la corvée de bois pour les femmes pour cuisiner. Et donc, comme c'était un militant engagé, écolo, géotrouve-tout, il a construit un cuiseur solaire de fortune pour assurer la préparation du repas. Et l'aventure est née à ce moment-là. Et petit à petit, on a développé des projets en Bolivie, au Pérou, au Chili, en Argentine et puis en Afrique. Et maintenant, c'est 1000 adhérents qui nous suivent dans cette aventure.
Parce que donc, même la cuisson fait du mal à la planète.
Effectivement, on a un constat qui est alarmant, qui est assez peu connu. Et on milite aussi pour faire connaître ce constat, puisque effectivement... C'est à l'aube de 2020, c'est encore 3 milliards de personnes qui cuisinent à base de biomasse, de bois, déchets végétaux, bouse de vache. Et cette population en fait passe aussi énormément de temps en fait à collecter ce bois, ce combustible. Donc dans certains pays c'est jusqu'à 20 heures par jour, et notamment pour les femmes, les fillettes. Mmh. Donc ce qui entrave aussi leur capacité à développer d'autres activités, s'occuper d'elles. Il y a également un impact important au niveau sanitaire. Puisque selon l'OMS, en fait, chaque année, c'est 4 millions de personnes qui meurent en fait des fumées toxiques de cuisson. Parce qu'en fait, les femmes cuisinent sur des foyers ouverts. Donc en gros, c'est des foyers trois pierres, une gamelle, et qui sont fortement émetteurs de pollution. Donc des particules fines qui s'introduisent dans les poumons, produisent des maladies cardiovasculaires, des yeux. Et il y a également aussi l'impact des émissions de CO2 et qui influe sur le changement climatique.
Alors vous, votre travail justement avec l'association Agnès, c'est de pouvoir diffuser ces outils de cuisson écologique pour les familles les plus vulnérables, donc dans les pays du Sud. Et puis même en France, hein, vous faites le travail aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Donc on a différents axes pour nos actions. Donc on travaille à la fois à l'international. Donc en Amérique latine, on travaille sur la diffusion de la cuisson solaire avec nos partenaires, parce qu'elle est propice en fait aux habitudes alimentaires, mais également au climat, parce que sur les hauts plateaux andins, on est à plus de 300 jours d'ensoleillement par an. Mmh. Et du coup, le dieu soleil aussi, Inti, est très important dans la culture andine. Donc c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Les femmes construisent elles-mêmes leurs cuiseurs solaires, elles apprennent à les entretenir, à les réparer. Elles ont aussi un suivi et des conseils nutritionnels. Et on travaille aussi en Afrique sur un autre type d'outil, qui est le cuiseur à bois économe, qu'on diffuse avec nos partenaires en créant des filières de fabrication et de vente. Mmh. Et cet outil, en fait, lui permet une réduction de la consommation de 50 à 80% du combustible du bois. Et également en France. Donc en France, on est aussi heureux de pouvoir agir pour sensibiliser sur la protection de l'environnement. Donc nous, on utilise la cuisson écologique, mais ça nous amène à parler des changements climatiques, de la lutte contre la déforestation, de nos émissions de CO2. Et donc on fait des animations, des sensibilisations, donc soit auprès du grand public, soit auprès des scolaires. Et on est toujours ravis de voir s'émerveiller les gens, de voir un gâteau, un poulet qui cuit dans un four solaire, quoi. C'est vraiment montrer qu'il y a des alternatives possibles et que la transition peut se mettre en marche avec des solutions simples.
Et Agnès, on peut l'utiliser même si on manque un peu de soleil, parce que nous, on n'a pas autant de soleil que chez les Péruviens là, sur la cordillère. Hein.
Oui, alors oui, on peut, effectivement, on va être limité quand il n'y a pas de soleil, on ne peut pas l'utiliser, mais même quand il neige, s'il n'y a pas de couvert nuageux, eh ben, on peut utiliser son cuiseur solaire.
On peut faire une raclette au cuiseur solaire, tiens.
Tout de suite. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une super idée. Agnès, parce qu'il nous manque du temps, évidemment, pour discuter un peu plus avec vous, mais en tout cas, on peut peut-être renvoyer nos auditeurs sur le site internet de l'association. On aura tous les détails.
Oui, tout à fait, vous avez tous les détails. Donc on organise aussi des stages et des ateliers si vous voulez venir construire votre cuiseur solaire. Mmh. On a également lancé aujourd'hui une campagne en fait de crowdfunding pour créer un réseau d'ambassadrices de la cuisson solaire en Bolivie, des femmes qui seront formées, équipées, qui vont diffuser dans des zones isolées la cuisson solaire. Et effectivement, n'hésitez pas à venir voir nos actions puisque on a des impacts, enfin il y a des impacts de la cuisson qui sont très importants et qu'on a envie de partager avec vous. Donc,
alors, c'est le site bolivianti-sudsoleil.org. Le plus simple, c'est d'aller sur le site de la Terre au Carré. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous saurez tout sur les activités d'Agnès et de son association BIS. Merci Agnès d'être passée dans l'émission.
Merci à
bientôt.
Vous, c'est un plaisir.
Bonne journée, au revoir. Merci à vous. Allez, dans un instant, notre invité découverte, c'est l'auteur Philippe Garnier qui publie Mélancolie du pot de yaourt, une méditation sur les emballages. Vous allez voir, c'est très beau.
J'ai fui au milieu de la soirée. Tu es, t'es là avec tes amis branchés. Et il faisait noir dans mes yeux. Il est peut-être trop tard pour te parler. Tu avais les yeux qui brillaient de l'assurance de ceux qui jouissent d'une place d'importance en lice pour l'espoir de n'avoir plus haut qu'un cauchemar. J'avais ma couleur de spleen et vert de thym. Il ne fallait
de B, c'était la chanson du bal sur France Inter.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard.
Un jour, quelque chose tomba du ciel. Qui n'avait jamais rien vu de semblable ? C'était transparent comme l'eau, mais c'était plus dur que tout ce qu'il connaissait au monde. Cette chose plus étrange et plus belle que tout ce qu'il connaissait leur était envoyée par les dieux. Pourquoi ? Dure, lourde, lisse, c'était la merveille des merveilles. Mais quelle négligence de la part des dieux, ils n'en avaient envoyé qu'une. Pour la première fois, voilà une chose qu'on ne pouvait partager, car elle était unique. Et voilà que tout le monde en a besoin presque en permanence. La chose totalement ignorée devient une nécessité, suscitant des pulsions inconnues, un besoin de posséder, un refus de partager.
Les dieux sont tombés sur la tête. Bonjour Philippe Garnier.
Bonjour.
Bienvenue à vous, vous êtes ancien éditeur, vous venez nous présenter cet essai Mélancolie du pot de yaourt, méditation sur les emballages qui sort demain aux éditions Premier Parallèle. Et si on a passé cet extrait, ben c'est parce que vous en parlez vous-même dans votre ouvrage. Et c'est vrai que ça fait écho d'ailleurs à ce que vous racontez finalement, ce qu'on entend là. Hein.
Tout à fait, parce que c'est l'étrangeté absolue d'une bouteille de Coca-Cola dont l'usage est ignoré par la population qui la reçoit. Tombé du ciel. Ouais. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'était justement de soulever l'étrangeté absolue de la pratique la plus quotidienne qui soit, qui est d'acheter des produits emballés, en sachets, empaquetés. Ça fait des dizaines d'années qu'on produit de plus en plus de ces enveloppes en plastique qui nous paraissent extraordinairement banales, dont l'usage ne soulève chez nous aucune interrogation. Et ce qui m'intéresse, c'est de tout inverser. C'est un désir de protéger, d'envelopper, d'ensacher, d'empaqueter qui n'en finit plus. Or, nous savons que ces petites membranes, dont la plupart sont en plastique, sont extrêmement dangereuses. Ce désir de protection aboutit, en fait, à une catastrophe.
Pourtant, il n'y a pas de message écolo hein, dans ce livre, ou très peu, finalement.
Non, enfin, il y en a un, mais en fait, c'est le bruit de fond dans lequel maintenant nous vivons tous. Et face à ce bruit de fond, qui est celui d'une catastrophe en cours, et dont les développements sont encore inconnus, il y a une nécessaire angoisse qu'il ne faut surtout pas contrarier. Il ne s'agit pas d'apaiser tout le monde et de dire que tout va bien. Mais dans ce bruit de fond, dans cette catastrophe, il y a un autre regard possible, tout au moins je le crois, c'est-à-dire... un regard plus méditatif, un arrêt sur image. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cette folie de l'empaquetage?
C'est ça l'idée
qui s'est emparée des humains depuis un demi-siècle. Et là-dedans, il peut y avoir une pointe d'ironie, d'humour noir, évidemment. Mais dans toute catastrophe humaine, il peut aussi y avoir un moment d'ironie et d'humour noir.
Et il y en a beaucoup dans ce livre, effectivement.
Et nous en avons besoin, peut-être, pour traverser ces moments-là.
Et comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre? Vous étiez en train de bloquer un jour dans votre cuisine sur votre paquet de vaisselle, de liquide vaisselle, par exemple, ou...
Non, dans les essais, les fictions que j'ai fait ces dernières années, il y a toujours, il me semble, un parti pris de considérer le quotidien et le normal comme quelque chose d'étrange. Et pour le coup, c'était un objet de consommation qui pour moi est devenu très étrange. Mais c'est peut-être un pli que j'ai pris, une façon de regarder les choses qui s'est installée en moi. En tout cas, les emballages, ça fait assez longtemps que j'y pense. Et j'essaie de m'arrêter tout d'un coup, de prendre un peu de distance quand je jette quelque chose, quand je regarde ce magma rectiligne des hypermarchés infinis. Et je cultive ça. Moi, j'aime beaucoup ce sentiment d'étrangeté dans la vie quotidienne.
Mais est-ce que vous êtes atteint pour autant du syndrome de Diogène, alors, qui consiste à finalement accumuler toutes ces choses inutiles?
Ça, c'était le danger. C'est très sérieux, le syndrome de Diogène. Il y a des gens qu'on trouve dans leur appartement, dont ils ne peuvent même plus sortir. Et les pompiers sont là pour tout déblayer. Et c'est très mystérieux parce que c'est quelque chose qui s'est installé dans les faits divers, qui est de plus en plus fréquent, et qui coïncide avec la planète transformée en décharge. Ce sont des gens qui accumulent chez eux des centaines, des milliers d'emballages vides, qui ne servent plus à rien. C'est le contraire d'une collection, en fait. C'est l'anti-collection, puisque ça n'a plus aucune valeur.
On perçoit quand même quelques petites madeleines dans ce livre, Philippe Garnier, du tube de lait concentré, par exemple, qui ouvre le livre, c'est le premier chapitre. Et alors, vous le décrivez, c'est véritablement, avec votre écriture, ça devient une œuvre d'art, mais un objet aussi en perpétuelle évolution, sous la pression de nos doigts et de nos empreintes.
Oui, parce qu'il n'y a pas de mépris de l'emballage. Enfin, il y a une stupeur devant l'ampleur folle que ça a pris. Mais ce sont aussi des objets extraordinairement pensés et travaillés. On est au carrefour des significations. Il y en a une qui est catastrophique, qui est apocalyptique. Et il y en a une autre qui est en même temps le fruit d'une pensée qui est parfois fine et qui est parfois inspirée. Et c'est ça la tragédie, justement. C'est que avec les meilleures intentions et le talent qui a été déployé là-dedans, on a abouti à quelque chose de terrifiant. Et c'est un livre qui est court, mais qui essaie d'être dans ce paradoxe-là. Et c'est vrai que le tube de lait concentré sucré, tout ce que vous voulez, enfin, il y a beaucoup d'emballages merveilleux, il y a les emballages de luxe évidemment merveilleux, mais cependant, il y a quelque chose de totalement néfaste, simultanément.
Je rebondis sur ce que vous dites, il y a des choses merveilleuses, c'est vrai que c'est tout un travail aujourd'hui, il y a des équipes entières dans les grandes entreprises qui travaillent toute l'année, tout le temps, pour faire des emballages, des nouveaux packaging, comme on dit, etc., qui vont attirer, ça aussi, ça vous fascine quelque part?
En fait, ce qui me fascine, c'est qu'il y a trois temps dans la relation que nous avons aux emballages. Ce qui a demandé le plus de travail, c'est va donner l'instant de la séduction notre découverte dans l'emballage dans un lieu de commerce, un hypermarché, etc. Cet énorme déploiement de l'art de plaire va aboutir à un instant de séduction qui va provoquer l'achat, parce que cette machine a quand même pour but de faire circuler les marchandises le plus rapidement possible. C'est la loi de l'économie dans laquelle nous vivons depuis un siècle maintenant. Et cet instant, c'est le premier moment. Ensuite, l'emballage va se retrouver dans les habitats, dans notre espace domestique. Et là, très vite, ça va être le désamour. La plupart du temps, on n'aura rien de plus urgent que de s'en défaire. Et alors, le troisième temps, c'est l'éternité. C'est-à-dire que l'éternité commence avec la poubelle, et ensuite, à 70%, on sait que les emballages plastiques, surtout eux, ne sont pas recyclés, ne sont pas détruits et vont s'en aller dans les espaces de la planète. Et là, on a affaire à une substance qui dure beaucoup, beaucoup plus longtemps que nous. Donc on a un instant, un petit moment, quelques heures, quelques jours où l'emballage a une survie très limitée dans nos habitats, et ensuite son éternité qui dépasse infiniment notre temps de vie. Philippe Garnier, c'est vertigineux quand même.
Pour poursuivre sur ce que disait Camille, justement, le pouvoir du marketing et l'imagination justement des professionnels. Vous donnez l'exemple du canard WC, par exemple.
Oui. Hein. Ça, vous adorez, Mathieu.
C'est quand même absolument génial. Mais c'est vrai, quand on y pense, ce bec courbé comme ça, qu'on passe sur la cuvette.
En fait, ces enveloppes sont toujours chargés d'une promesse. Alors cette promesse a évolué au fil du temps. Les premières promesses des années 30 ou 50 étaient des promesses souvent assez naïves, assez mirobolantes. C'était changer de vie grâce au chewing-gum machin. Enfin ça, c'était aux États-Unis que ça a démarré très bien, etc. Ensuite, il y a une lassitude du consommateur qui a provoqué l'irruption du packaging ludique, déroutant, éventuellement absurde. Et mettre un canard dans un produit qui est de l'eau de Javel ou de l'acide chlorhydrique, en fait, le produit le plus banal et l'opération domestique la moins excitante qui soit. Donc il y a une association qui est tout à fait pensée comme une diversion, un divertissement, un petit fétiche. Et tout ça s'adresse à un consommateur qui, effectivement, tend à ralentir. Un consommateur fatigué. Et puis, maintenant, on a l'emballage écolo, c'est-à-dire l'anti-emballage, le retour au sac en papier. Et le vrac.
Et le carton. Le carton. Très bel éloge du carton dans ce livre.
Dans la petite partie qui s'appelle « Conversation avec les matériaux », il y a effectivement un éloge de certaines matières. L'osier, par exemple, abandonné. Mais bon, personne n'envisage de revenir à tout fabriquer en osier, c'est impossible. Mais le carton, bien sûr, ils ont chacun une promesse aussi, ces petits emballages, peu bavards en fait.
Le carton ne se plie pas à toutes les fantaisies industrielles, fragiles et rigides, il ne rivalise pas avec le plastique, c'est son côté citoyen. Oui. Il n'est pas corvéable à merci, ni prêt à n'importe quelle métamorphose, ça j'aime bien aussi.
Ah ben, un monde entièrement voué au carton, j'avais mis la brique et le carton, parce qu'effectivement c'est deux. Ça serait peut-être pas très excitant pour la consommation, mais il y a un rêve autour du carton. Enfin, tous ces matériaux, il y a une rêverie possible autour de ça.
Philippe Garnier, très vite pour terminer, un monde sans emballage. C'est une véritable révolution, un changement de société.
Ça serait le vrac qu'on voit dans les magasins de fruits et légumes, les AMAP. C'est les très vieux marchés en plein air. Là, vous me posez une colle.
Je ne peux
absolument pas y répondre.
Mais vous avez réfléchi aussi.
Ça serait une métamorphose de civilisation dont nous n'avons pas idée, en fait.
L'auto-hypnose du paquet de chips bio à l'ancienne, l'ambivalence du préservatif, le papier bulle, tout ça, c'est dans cet ouvrage. Mélancolie du pot de yaourt, méditation sur les emballages. Ça sort demain chez Premier Parallèle. Vous en êtes l'auteur, Philippe Garnier. Merci d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
À bientôt.